Voilà, gloire à Dieu. Avant de donner le message préparé donc, par la grâce de Dieu ce matin, je vais vous lire Union chrétienne d'évangélisation à la CMM mai 2024. En fait, nous sommes édifiés les uns et les autres lorsque nous nous rassemblons, mais nous sommes édifiés aussi par d'autres frères qui sont sur le terrain, qui travaillent pour Dieu. Et c'est une édification bien plus large, bien sûr, qu'à l'Église. Et les introductions au sujet de prière de la CMM chaque mois sont souvent une source d'encouragement, de renouvellement. Alors je vous lis. Bien chers amis, il y a près d'un siècle, une expédition polaire américaine recruta un jeune Esquimau du Groenland. Satisfait de ses services, les organisateurs le récompensèrent en lui faisant visiter la ville de New York. Quelle ne fut pas son émotion en découvrant les splendeurs de la civilisation moderne naissante ? Il était ébloui par tout ce qu'il voyait et entendait. C'était plus qu'un rêve. Il entrait dans un autre monde que le sien. De retour dans son village natal de l'Arctique, après ce bref séjour, il tenta de raconter autour de lui toutes ses merveilles. Il essaya de décrire ses igloos si hauts qu'ils se perdaient dans les nuages. Comment la ville était remplie de petites maisons sur roues où vivent des personnes en constant mouvement et qu'on appelle automobiles. Il n'oubliait pas le gigantisme des ponts et le bruit des bateaux. Il expliquait avec ses mots que la lumière pouvait être artificielle, sans feu ni soleil. C'est cette lumière-là qui éclairait la grande ville toute la nuit comme des milliers de lunes réunies. C'est avec incrédulité et froideur que les gens l'écoutèrent. Ils lui donnèrent même un surnom, Sagdluk, qui signifie « menteur ». Et jusqu'à la fin de ses jours, il porta ce sobriquet, emportant jusque dans la tombe l'opprobre et l'incompréhension. Des années plus tard, lorsque l'explorateur suédois Knud Rasmussen monta sa fameuse expédition allant du Groenland à l'Alaska, il y associa aussi des Esquimaux dont l'un d'eux s'appelait Mitek. Mitek visita à son tour, et pour les mêmes raisons, les villes de Copenhague et de New York. Là encore, l'émotion et l'éblouissement furent intenses. Revenu au Groenland, il se souvint de la tragédie qui s'était abattue sur le pauvre Sagdluk. Il décida très vite que ce n'était pas très prudent de dire la vérité. Il vaudrait mieux raconter à son peuple des histoires qu'il puisse comprendre et souhaite entendre. En même temps, il sauverait sa réputation. Il expliqua alors comment, avec le docteur Rasmussen, il avait dressé des campements sur les bords de la grande rivière Hudson et avec quelle efficacité il avait chassé en canoë les canards, oies et divers gibiers. Pour ses semblables, Mitek était un héros vaillant et un honnête homme. Même s'il connaissait la vérité, sa prudence avisée lui permettait ainsi de ne courir aucun risque et éviter l'offense. De ce fait, ses voisins, dans l'ignorance, le considèrent avec respect jusqu'à la fin de ses jours. Ceux qui disent la vérité ont souvent un chemin rempli d'embûches et trouvent rarement beaucoup de sympathie de la part de ceux à qui ils s'adressent. Avant que Guy Béard ne chante sa célèbre chanson sur celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Socrate a été obligé de boire la ciguë. Ésaïe, selon un texte éthiopien, fut ligoté et scié en deux. Étienne fut lapidé. Jean Hus fut brûlé vif sur un bûcher. Galilée dut renier ses découvertes sur le système solaire. Les gens n'aiment pas que l'on remette en cause leurs certitudes. Ils résistent à ceux qui ne suivent pas leur façon d'agir et de penser. Certes, les Esquimaux avaient des excuses. Par expérience, ils ne pouvaient pas visualiser et discerner tout ce que Sagdluk leur décrivait. Et nous, aujourd'hui, pouvons-nous trouver les mêmes excuses aux croyants de notre génération qui savent que depuis 2000 ans, le Seigneur les a sauvés et les missionne également. Si peu le croient vraiment et obéissent. Il demeure vrai et certain que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il subsiste que la lumière de l'Évangile n'est pas destinée à être cachée sous le boisseau, mais à éclairer tous les hommes, car la volonté de Dieu est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est grave, pour la cause de notre Seigneur, de se contenter de chasser sur des canoës le long des rives de l'Hudson. L'un des objectifs de notre lettre mensuelle d'information et de prière est de vous associer en vrai et en temps réel, sans dissimulation ni exagération, aux besoins de 8 personnes sur 10 qui n'ont encore jamais rencontré celui qui leur dit clairement « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Je laisse la conclusion de la lettre, vous pourrez la lire. Très belle illustration, exhortation à transmettre et propager la vérité du Seigneur. Prions encore avant de prendre sa parole. Merci Dieu, merci parce que tu nous as réunis par ta vérité et que cette vérité agisse puissamment encore dans nos vies. Seigneur, tu as été fidèle en nous rassemblant ce matin. Et tu as répondu à l'attente des cœurs. Et Seigneur, nous voulons recevoir de toi ta parole pour qu'elle nous bénisse, nous instruise et nous permette de propager autour de nous cette vérité merveilleuse. Amen. Alors en préparant le message, je me suis aperçu en définitive que c'était la seconde version du message que j'ai apporté il y a 15 jours. Et le Seigneur donc est fidèle pour nous instruire selon sa grâce concernant sa puissance, la puissance de Dieu. Nous avons dans nos lectures du jour, nos lectures régulières, lu donc précédemment la première épître de Pierre, la seconde de Pierre, et maintenant nous sommes dans l'épître aux Corinthiens. Et très vite, dans chacune de ces épîtres, intervient la notion de puissance de Dieu. Et donc, voilà, je suis amené à vous prêcher sur la puissance de Dieu. Dieu est à l'œuvre dans sa puissance. Il a déployé sa puissance pour nous. Alors je vous lis d'abord dans l'épître aux Corinthiens, la première, chapitre 1, versets 18 à 25. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La puissance de Dieu associée à sa sagesse pour nous apporter le salut par la croix de Jésus-Christ. Donc cette notion de puissance de Dieu arrive très vite dans ce texte, comme dans celui des épîtres de Pierre, pour une bonne raison, c'est que sans la puissance de Dieu, nous ne pourrons rien connaître du salut. C'est l'affirmation qui est faite ici aux Corinthiens, également au chapitre 2, l'apôtre Paul qui dit au sujet de son témoignage à lui, à partir du verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il ne dit rien d'autre aux Romains. Si nous lisons l'introduction aussi aux Romains, au chapitre 1, que dit-il au sujet de l'Évangile, à partir du verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Évangile, puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et comme la puissance, c'est la capacité de faire, Paul démontre dans toute son épître aux Romains que Dieu est capable d'être juste en sauvant ceux qui ont la foi. Il présente à notre conscience, en fait, le Fils, Dieu présente à notre conscience son Fils crucifié pour nos péchés et qui sauve ceux qui adhèrent à cette œuvre parfaite. Je prends Romains chapitre 3, versets 21 à 24, mais c'est tous les premiers chapitres de l'Épître aux Romains où Paul développe cette pensée. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà la sagesse et la puissance de Dieu à l'œuvre pour ceux qui croient, pour notre salut. Après le sacrifice de la croix, Dieu a eu la capacité de ramener Christ de la mort et de l'élever à sa droite. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens également met en évidence. Chapitre 1, très vite aussi, dans le texte, à partir de, je prends le verset, à partir du verset 18, Paul prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu a déployé sa puissance lors de la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette puissance déployée en Christ lors de la résurrection, sur laquelle justement j'avais beaucoup insisté la dernière fois, la résurrection de Jésus, la vie nouvelle que Dieu a donnée à Jésus-Christ mort pour nous. Eh bien, c'est cette puissance déployée en Christ à laquelle s'attache notre foi lors de notre conversion. Nous nous appuyons et nous nous attachons à ce que Dieu a fait en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Également dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Cette puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus. Alors la puissance, j'essayais de réfléchir entre la différence entre force et puissance, parce qu'en fait les deux mots sont souvent associés, mais il y a une nuance entre la force et la puissance. Et la puissance, comme si qu'on raisonne assez facilement, comme si la puissance c'est la force, mais c'est la plus grande force, quoi. Hein? C'est plus grand encore que la force. Mais c'est pas seulement ça, la puissance, c'est la capacité de faire, c'est le pouvoir. En fait, la racine, c'est pouvoir, être capable. Et donc, la puissance ne demande pas seulement de la force, mais elle demande justement de la sagesse, de l'intelligence. C'est une conjonction d'action qui fait que les choses peuvent se faire. Et Dieu a été capable, dans sa sagesse, de donner son Fils pour le pardon de nos péchés et ensuite de le rendre à la vie, de le faire revivre pour sa gloire éternellement et donc de nous faire revivre avec lui. Nous pouvons revivre malgré nos fautes, malgré notre culpabilité. Le Seigneur nous propose de nous faire revivre avec Christ ressuscité. Dieu dirige sa puissance vers nous maintenant. Après l'avoir déployée en Christ, il dirige sa puissance vers nous pour nous rendre justes par la foi, parce que jamais nous ne pourrons vivre devant lui si nous ne sommes pas justifiés. Donc c'est le premier acte. Il nous justifie, il nous rend justes et nous redonne la vie. Voilà comment le Seigneur déploie sa puissance envers nous. Il nous pardonne nos péchés, il nous justifie et il nous rend la vie avec Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Alors l'apôtre Pierre, nous allons aller voir le passage de sa première épître que nous avons lu récemment. Et je vais prendre donc le chapitre 1, versets 3 à 5. Et nous allons voir que Pierre, mais nous l'avons déjà en fait rencontré cette notion, mais quand même, Pierre présente plutôt la puissance de Dieu agissant en nous en vue de notre avenir. En vue de notre avenir. Car le salut a été réalisé par la mort et la résurrection de Jésus pour le pardon de nos péchés. Mais le salut est encore à venir. Et Pierre explique cela dans ce passage que nous devons d'ailleurs apprendre par cœur d'après la carte. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ici donc, il est aussi immédiatement question de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Toujours, dans tous ces passages, il est question de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu, béni soit Dieu, parce que voilà, maintenant nous bénissons Dieu de cela, hein, par sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc, pour une espérance vivante, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts permet notre régénération, notre vie nouvelle, et crée une espérance liée à la vie éternelle. Un héritage de gloire est en vue, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alors cet héritage, puisque c'est un héritage, nous ne le possédons pas encore. Mais nous sommes préparés à le recevoir. Et pour ce faire, interviennent la puissance de Dieu et la foi. Les deux sont à l'œuvre pour que nous puissions un jour recevoir l'héritage, la puissance de Dieu et la foi. La puissance de Dieu, nous avons la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais ici, c'est la puissance de Dieu qui nous garde pour le salut. Par la foi qu'il maintient en nous. La puissance de Dieu est à l'œuvre pour que nous puissions rester dans la foi, pour que le jour du salut, nous puissions y participer. Préparer le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut vient. Bien sûr, le salut a été accompli par le pardon des péchés à la croix. Mais le salut vient également. C'est en espérance que nous sommes sauvés, dit l'apôtre. Le salut vient parce que il reste un mystère quant à sa réalisation, ce salut. Il est préparé par Dieu et il va être révélé dans les derniers temps. Et lorsqu'il va paraître, ce salut, il faudra être prêt à le recevoir. Et c'est là que nous avons besoin de la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous maintenir dans la foi. Parce que tout cela, nous le recevons par la foi. La foi qui dans nos cœurs a démarré lorsque nous avons constaté que Christ s'est chargé de nos fautes, a été crucifié pour nos péchés et a été ressuscité par la justice de Dieu. Et nous maintenons et nous renouvelons et nous travaillons par la puissance de Dieu cette foi en Jésus-Christ. Donc la puissance de Dieu agit et il faut compter sur cette puissance pour continuer à nous sauver. Et j'apporte ce message parce que je me suis, quand même j'ai été frappé, travaillé, disons, ces derniers temps, par beaucoup de situations de faiblesse où nous disons, mais quand même, où est la puissance de Dieu? Est-ce que nous avons encore foi en la puissance de Dieu qui agit et qui nous prépare pour le salut? Nous ne pouvons pas rester dans la faiblesse, en toutes sortes de situations, des situations de faiblesse, alors que le Seigneur nous promet la guérison, nous promet la délivrance, nous promet la victoire, nous promet qu'en Jésus-Christ, nous avons une plénitude. Combien nous devons retrouver cette notion de puissance de Dieu. La puissance de Dieu est réelle et elle n'est pas seulement une force qui vient comme ça, mais c'est tout ce que Dieu construit en nous pour notre salut. qu'il réalise en nous. Et cette puissance, elle est absolument nécessaire pour la vie. D'ailleurs, le moindre brin d'herbe se développe par la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans la manière dont il l'a conçu et dans la manière dont il lui envoie la chaleur du soleil. Et voilà, et c'est la puissance, c'est une puissance réelle qui fait se développer le simple brin d'herbe. Et tout va comme ça pour que la vie se manifeste. D'ailleurs, c'est tellement puissant, un simple brin d'herbe, que vous les voyez se développer et pousser dans des endroits improbables, hein, un brin d'herbe ou bien une autre plante, qui parfois sont capables de soulever du bitume, alors que c'est rien, mais c'est rien, mais c'est puissant. Et donc, cette puissance de Dieu qui s'est déployée dans la résurrection de Jésus-Christ, elle est à l'œuvre pour ceux qui croient, dans la vie de ceux qui croient. Il faut absolument travailler cette notion de la puissance de Dieu. Là, j'ai pris quelques passages de référence, mais il y en a, si vous allez à la concordance, vous allez en trouver d'autres références sur la puissance de Dieu. Puissance pour nous sauver, pas forcément la puissance spectaculaire, et surtout pas la puissance qui s'exprime dans... vous voyez, c'est même pas de la puissance, c'est la force brute dans les bombes, etc. Ça, c'est de la puissance, mais c'est destructeur. Mais cette puissance qui est à l'œuvre pour donner la vie, pour développer la vie, pour construire, pour édifier, le Seigneur veut déployer en nous sa puissance. Mais il le fait sur le terrain de la foi, par la foi que nous avons en lui, en ce qu'il a fait en Jésus-Christ, et sur la base de sa miséricorde envers nous, du pardon qu'il nous a accordé. Parce que tout est là, en fait. La justice de Dieu manifestée dans le sacrifice de Christ à la croix, qui a permis à la puissance de Dieu de développer la vie nouvelle, et qui maintenant nous met au bénéfice de cette vie nouvelle. Et c'est une réalité. La puissance de Dieu est une réalité. On ne peut pas rester dans une notion permanente d'incapacité, de faiblesse, alors que nous avons cette vérité qui est là, à l'œuvre dans nos vies. Alors, je vous invite vraiment à retrouver une foi vivante dans la capacité de Dieu, dans ce qu'il est capable de faire pour vous sauver, comment il a déployé sa sagesse, sa justice, sa force, pour que le salut qui vient soit à votre disposition. Et bien sûr, je ne peux pas le prendre aujourd'hui, mais il y a cette deuxième épître de Pierre, où disons, je vais le prendre, mais seulement en le lisant, et je ne vais pas commenter. Où nous voyons que il y a de notre part maintenant une participation volontaire pour que la puissance de Dieu puisse produire tout son fruit, son efficacité, avoir toute son efficacité dans notre vie. Alors je termine en lisant quand même ce passage de seconde épître de Pierre, versets 3 à 11, et je vous laisserai avec ces paroles du Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, ou la science, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Préparez-vous à entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.